Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani. Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halud Mouni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Madame, Monsieur, bienvenue dans ce grand dialogue. L'Europe fête demain le 9 mai, journée donc de l'Europe. 2017 est aussi cette année de célébration du 60e anniversaire à travers la signature du traité de Rome. L'occasion pour nous de parler de cette coopération entre l'Union européenne et le Mali. Comment se porte donc cette collaboration Mali-Union européenne? Quels sont les secteurs clés d'intervention de l'Union européenne au Mali? Comment améliorer la coopération en vue d'un partenariat gagnant-gagnant? Voici quelques questions et bien d'autres auxquelles nous allons répondre. Ici dans ce studio avec Cécile Tassin-Pelzer, le chef de la coopération à la délégation de l'Union européenne au Mali. Mamadou Mandiou Berté, il est le directeur Europe au ministère des Affaires étrangères. Sidiki Kone, coordinateur CONFED, c'est la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement. Je suis Ousmane Diadié Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Salim Diouara.
Le grand dialogue.
La coopération Mali-Union européenne date d'avant l'indépendance puisqu'elle est en selle depuis 1959 avec près de 2000 milliards investis dans notre pays depuis. La Fondation Hirondelle d'ailleurs bénéficie d'un accompagnement de l'Union européenne à travers ce projet Studio Tamani qui vous permet aujourd'hui donc de suivre cette émission de débat. Donc merci. Alors Madame Tassin-Pelzer, chef de la coopération à la délégation de l'Union européenne, comment se porte donc cette collaboration Mali-Union européenne? Tout d'abord.
Merci, bonsoir à tous les auditeurs. En deux mots, je dirais qu'elle se porte bien, qu'elle est vivante, qu'elle est profonde et qu'elle est multiforme.
Alors, qu'est-ce qui est prévu demain justement pour célébrer le 9 mai?
Alors, nous avons des festivités toute la semaine, en fait. Demain, c'est le volet plus protocolaire, diplomatique, avec une réception à la résidence de l'ambassadeur, notamment pour les membres du gouvernement, les missions diplomatiques, etc. Mais ensuite, entre le 10 et le 13 mai, donc à partir d'après-demain jusqu'à la fin de la semaine, là, nous avons des activités qui seront ouvertes au grand public d'accès libre. Et ce sont les journées culturelles de l'Europe que nous organisons pour la première fois cette année, qui se passeront principalement à l'Institut français. Et ce sont des journées qui sont organisées en collaboration avec les différentes ambassades des pays membres de l'Union européenne qui sont présentes au Mali. Et il y aura des expositions, il y aura des concerts, et il y aura des films. Et puis aussi, vendredi matin, à l'université, il y aura une conférence, et c'est l'ambassadeur de l'Union européenne qui sera conférencier. La conférence portera sur les 60 ans du traité de Rome que vous avez mentionné, et sur les enjeux, les défis et les perspectives de l'Union européenne.
Merci. Alors, nous avons également avec nous dans ce studio Mamadou Mandiou Berté, il est le directeur Europe au ministère des Affaires étrangères. On parle de près de 403 milliards de francs CFA sur la période 2014-2020. Ces chiffres, nous diront certainement les auditeurs, sont énormes, mais quel est l'impact de cette aide-là, justement, sur la vie du citoyen lambda?
Je vous remercie, monsieur. Tout d'abord, je voudrais souhaiter bonne fête à tous les Européens qui vivent avec nous dans notre pays, au Mali. Et l'impact de la coopération Mali-Union européenne, à mon avis, est visible dans tous les secteurs, dans tous les compartiments de notre société, que ce soit dans le domaine du transport, dans le domaine de la gouvernance, dans le domaine de la sécurité, de la paix, dans tous les secteurs aujourd'hui, monsieur. Pratiquement.
Alors, comment justement le citoyen lambda, le malien de la rue, pourrait justement bénéficier de ces apports-là?
Je pense que les Maliens bénéficient déjà de ces apports. Qu'il s'agit des routes, par exemple, c'est utilisé par les Maliens. La paix, la sécurité, c'est pour la stabilité de notre pays. L'éducation, la gouvernance, c'est pour comment la stabilité du pays aussi. Tout le monde voit aujourd'hui ECAP Sahel, tout le monde voit aujourd'hui l'8e. C'est des choses qui sont visibles, qui sont palpables en réalité. C'est le quotidien des Maliens aujourd'hui, à mon avis.
Merci. Nous avons également avec nous Sidiki Kone, c'est le coordinateur du CONFED, c'est la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement. Alors, parfois, il y a toutes ces lourdeurs administratives autour justement du décaissement des différentes aides octroyées au Mali. Comment faire justement face aux urgences, hein? Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, d'alléger le dispositif pour qu'on puisse entrer en possession de toutes ces aides-là assez rapidement?
Merci, monsieur. Bonsoir à tous les auditeurs. Et si vous voulez parler de procédures, en réalité, au niveau des procédures de l'Union européenne, nous avons été créés, n'est-ce pas, par le ministère des Affaires étrangères pour pouvoir accompagner et appuyer, n'est-ce pas, les bénéficiaires de ces aides-là, pour que, effectivement, ces procédures qui peuvent sembler lourdes puisse être mieux maîtrisé et mieux appuyé aussi dans ce domaine-là. Donc, quand on se réfère, n'est-ce pas, aux différents taux de décaissement, d'engagement d'abord et ensuite de décaissement, je peux vous affirmer que depuis le premier FED, comme vous l'avez souligné, depuis 1969, jusqu'à nos jours, au niveau du 10e FED, nous avons un taux d'engagement de 100%, avec un taux de décaissement aussi qui est vraiment assez appréciable, parce que voisine déjà les 95-16%. Donc, vous voyez que au niveau du taux de décaissement, c'est sans commune mesure, n'est-ce pas, avec d'autres partenaires techniques et financiers.
Merci, les efforts sont faits. Donc, en ce sens-là, alors, Madame Tassin-Pelzer, de l'Union européenne, on a souvent entendu parler, les analystes politiques nous ont parlé de ce fameux Brexit. Hein. Est-ce que ce Brexit va avoir un impact sur l'aide que l'Union européenne apporte à des pays comme le Mali, par exemple?
C'est encore un petit peu tôt pour le dire, puisque, en tout cas, pour vous savez, nous avons des engagements financiers pluriannuels. Pour l'instant, nous sommes dans le cycle 2014-2020. Dans les négociations qui vont avoir lieu entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, on va notamment discuter de la période 2018-2020, puisque nous étions partis sur l'hypothèse que la Grande-Bretagne participerait jusqu'en 2020. Maintenant, c'est sûr que pour le prochain cycle de financement, donc à partir de 2020, là, il faudra faire sans la Grande-Bretagne. Oui, c'est possible qu'il y ait, il y aura forcément une réduction, et là je parle du budget global de l'Union européenne, puisque nous aurons la contribution britannique en moins. Ceci dit, la réduction ne sera pas forcément sur la coopération au développement. Elle sera peut-être sur d'autres, plutôt, je dirais, même sur d'autres politiques. Et même si elle était en partie sur la coopération au développement, ce serait pas forcément pour le Mali. Je pense pas que les pays les plus fragiles seraient les plus impactés par une réduction.
Merci. Alors, Monsieur Berthet du ministère des Affaires étrangères, on reproche souvent à l'Union européenne de donner par la main droite et de récupérer justement par la main gauche avec un peu trop d'exigences. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je pense que ceux qui le disent ne comprennent pas. Il y a les règles du jeu. Ça, c'est un dialogue politique qui existe entre les deux pays, entre les deux entités. C'est un partenariat en réalité. Donc, comprendre dans le sens de donner de la main gauche pour reprendre de la main droite, à mon avis, c'est comprendre les choses à l'envers, quoi, dans un partenariat que nous avons avec cette entité. Vu aussi, comme je l'ai souligné, tout le travail fait par l'Union européenne dans notre pays. Je pense que excusez-moi de l'expression, mais il n'est pas séant de dire que l'Union européenne donne de la main gauche pour reprendre la main droite. Comme je l'ai dit, l'impact est là, il est visible sur tous les plans multisectoriels. Et c'est grâce à l'Europe que le Mali d'aujourd'hui est debout en grande partie. vous convenez avec moi. La crise que nous avons traversée.
1959, oui. Hein, avec près de 2 000 milliards à la clé, hein, dépensés de 1959 à aujourd'hui.
Oui, mais vous divisez 2 000 milliards par le nombre d'années, vous verrez aussi l'enveloppe. Ne voyez pas surtout le montant brut, voyez surtout ce qui a été fait. Oui, oui. Dans le domaine des routes, voyez le livret que nous avons confectionné. Vous verrez également, vous verrez exactement la longueur des routes que l'Union européenne à elle seule a fait au Mali. Vous enlevez ça aujourd'hui des routes bitumées du Mali, il va vous rester ce qu'on pourrait appeler pratiquement une peau de chagrin en réalité.
Monsieur Kone, Sidiki Kone, coordinateur du CONFED, alors si j'affirme aujourd'hui que c'est un partenariat gagnant-gagnant, je ne me trompe pas.
Non, c'est sûr que c'est un partenariat gagnant-gagnant, vous ne trompez pas, puisque d'un côté, effectivement, nous avons cet appui important pour permettre à ce que la population puisse être la plus grande bénéficiaire. Et de l'autre côté, nous avons aussi à donner à l'Union européenne tout ce qui est comme expression culturelle, qui intéresse aussi la communauté européenne.
Ah, il y a d'ailleurs ces activités culturelles qui vont se dérouler. Est-ce que c'est une collaboration des artistes Union européenne et maliens?
Alors, c'est d'abord principalement des activités culturelles européennes, puisque l'idée, c'est de faire découvrir la culture des pays européens au public malien. Ceci dit, il y a plusieurs, au sein de ces activités, il y a quand même plusieurs coopérations. Par exemple, dans les concerts, vous verrez qu'il y a eu des coopération entre musiciens européens et musiciens maliens. Et en dehors de l'activité même que le public va voir, par exemple en dehors du concert lui-même, plusieurs jours avant, plusieurs jours après, il y a des rencontres. Donc c'est quand même une semaine aussi d'échanges, oui, entre des artistes européens, des artistes maliens.
Merci. Nous allons donc observer juste quelques secondes de pause. Nous reviendrons continuer cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Merci de rester connecté au Studio Tamani. Vous suivez le Grand Dialogue Coopération Mali-Union Européenne. Où en sommes-nous? C'est à marque justement de la journée de l'Europe qui est célébrée au Mali, enfin dans le reste de l'Europe d'ailleurs, demain. Alors parlons un peu des secteurs clés de la coopération aujourd'hui. Quels sont les grands secteurs de la coopération Mali-Union Européenne?
Alors aujourd'hui, nous avons d'abord le secteur de la gouvernance. Il s'agit vraiment de ce qu'on a appelé à la sortie de crise la reconstruction de l'État. Nous avons également le secteur du développement rural et de la sécurité alimentaire. C'est un secteur vraiment traditionnel depuis des décennies dans la coopération entre l'Union européenne et le Mali. Et puis nous avons le secteur de l'éducation que nous n'avions pas soutenu depuis plusieurs années. Donc ça, c'est un retour, hein, le secteur de l'éducation. Et enfin, nous avons un autre secteur traditionnel qui est les transports routiers. Donc avec Monsieur Berthet a mentionné le fait qu'on a financé dans l'histoire beaucoup de routes et nous continuons à financer la construction de routes mais aussi l'entretien routier.
D'accord. Nous avons recueilli justement les propos de Ibrahim Kébé. Ibrahim Kébé, il est le commissaire principal de l'organisation Face au Kanou. Il n'est pas très pro-européen. Donc on l'écoute et on réagit à ses propos.
Constater que cette relation Union européenne-Mali n'a jamais apporté comme solution réelle et appropriée aux préoccupations et aspirations profondes du peuple du Mali. Comme vous le savez déjà, la France en tant que telle, le pays colonisateur impénitent, a toujours utilisé l'ONU comme couverture et elle utilise l'Union européenne également comme couverture. Et récemment, même l'Arabie saoudite est vraiment utilisée comme couverture avec la question de construction d'un aéroport à Kigali.
On sait quand même que l'Union européenne intervient dans plusieurs domaines. Ils accompagnent le Mali, surtout dans le domaine de la sécurité, avec la formation de nos agents des forces de sécurité.
Bon, nous, nous croyons beaucoup à la question des relations vraiment qui respectent la dignité humaine, c'est-à-dire l'indépendance et la souveraineté des pays. Et vous avez parlé effectivement de l'appui de l'Union européenne, surtout dans le cadre de l'EITM et l'UICAD aussi Sahel-Mali. Mais force est de constater en réalité que notre souveraineté, notre indépendance n'est pas du tout respecté dans ça. Comme je l'ai dit au départ, ça n'a jamais apporté comme solution réelle, parce qu'ils ont dit que même l'Union européenne soutient l'intégrité territoriale du Mali, mais depuis qu'ils sont là, et le bilan est connu sur le terrain. Jusqu'à présent, l'intégrité territoriale du Mali n'est pas encore établie.
Donc, qu'est-ce que vous vous reprochez concrètement à l'Union européenne?
L'Union européenne n'est rien d'autre qu'une branche de cette politique nocive franco-africaine qu'on appelle Françafrique. Et il est vraiment clair que la sortie de cette relation nocive équivaut à la dignité de notre peuple. Donc nous nous réclamons de ceux-là qui se dressent de toute leur taille pour notre dignité et pour la dignité africaine.
Alors Mamadou Mandjou Berté, vous êtes du ministère des Affaires étrangères. Quelle est donc votre réaction à ces propos de Ibrahim Kébé, commissaire principal de l'organisation face au Kanou? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures dans la balance?
Mais je crois que M. Kébé fait une confusion. Quelquefois, il parle de l'Union, de l'ONU. Quelquefois, il parle de l'Union européenne. En réalité, de vous à moi, je ne sais pas au juste qu'est-ce qu'il dénonce. Quand il parle, par exemple, de la mise à mal de la souveraineté du Mali avec la présence de l'UITM. Mais l'UITM, c'est le Mali qui a fait appel à l'Union européenne pour la mise en place de l'UITM qui a été faite par la résolution 2085 du Conseil de sécurité. Véritablement. Mais en ce moment, je ne vois pas. Et cette résolution a été votée par la communauté internationale. Et le Mali y était. Je ne vois pas en quoi ça peut porter atteinte à notre souveraineté, véritablement. Sauf si peut-être nous n'avons pas le même sens pour le mot souveraineté. J'aurais bien aimé que M. Kaba soit là afin que nous... Non, c'est vrai. Kébé soit là afin que nous discutions face à face par rapport à la question.
Merci. Sidiki Kone, coordinateur du CONFED, l'EITM, c'est quand même depuis 2013 8000 militaires de formés au Mali. Ça a quand même un impact sur le terrain, non?
10 000 militaires.
10 000, hein, au lieu de 8000.
Enfin, depuis le 30 avril.
Autant pour moi, donc 10 000 militaires de formés.
Oui, comme vous le savez, on ne peut pas imaginer ce que serait le Mali, n'est-ce pas, sans cette intervention et sans cette formation. Donc il faut voir l'autre côté aussi pour se faire un film de ce que pourrait être le Mali s'il n'y avait pas cette formation. Moi, je ne suis pas spécialiste du volet sécurité, mais tout ce que je peux vous dire, nous sommes dans un programme de construction de la route allant de Nyono jusqu'à Tombouctou. 584 km de route bitumée, une route financée par l'Union européenne sans contrepartie national. Donc, et pour la sécurisation de ces tronçons, nous avons, n'est-ce pas, des forces de sécurité qui ont été formées et qui assurent efficacement la protection maintenant, n'est-ce pas, des travaux chantiers. En 2012, quand nous n'avions pas ce dispositif assez bien étoffé, on voit ce qu'il en est advenu. Tous les équipements des entreprises ont été saccagés, toute la base vie de ces entreprises ont été saccagées. Et si vous voyez qu'à partir de 2013, nous sommes en train de progresser, déjà, je vous dis qu'entre les auditeurs de la zone de Niafunké qui m'écoutent et de Tombouctou qui m'écoutent peuvent savoir que c'est la réalité. Tombouctou, Niafunké, en passant par Goundam, Diré, tout ça s'est bitumé. Et nous sommes en train d'aller de Niafunké à Léré. Et dès aujourd'hui, nous avons fait le point. Il y a déjà 41 km de bitume entre Niafunké et Léré. Et tout ça, c'est parce qu'il y a l'appui de l'Union européenne, mais ce tapis aussi est au niveau des forces de sécurité, n'est-ce pas, qui assurent efficacement la protection.
Merci, Cécile Tassin-Pelzer. Alors, allez-y.
Juste compléter ce que M. Kone a dit. Lui, il a parlé du volet, transport. Mm-hmm. Et moi, j'ajouterais qu'au niveau de la sécurité, par exemple, depuis fin avril,
l'UTM a formé à peu près le tiers, j'ai dit le tiers de l'effectif total de l'armée malienne. Soit, je pense, 8 GTA et 5 ETA, en réalité. Et ce qui fait environ 10 000 éléments.
Merci. Alors, je vous laisse réagir au propos de M. Kébé. Alors, il y a un autre programme de l'Union européenne qui reste un peu moins connu que l'EUTM. Il s'agit bien entendu de le Cap Sahel qui forme justement la police, la gendarmerie, également la garde nationale.
Effectivement, oui, qui est le pendant civil de EUTM. Non, pour revenir au propos de ce monsieur. Je crois qu'il faut tout simplement rappeler que tout ce que nous faisons, c'est en partenariat avec le gouvernement malien et aussi avec parfois directement aussi avec la société civile malienne, avec des autorités locales maliennes. Tout d'abord, d'un point de vue stratégique, nous nous appuyons sur les politiques nationales maliennes. Que ce soit la politique de réduction de la pauvreté, les politiques sectorielles. Et au niveau de développement des projets, bien sûr, en général, d'ailleurs, nous lançons des appels à propositions, c'est-à-dire nous demandons aux acteurs qui sont sur le terrain qu'est-ce que vous proposez de faire et nous évaluons leurs propositions. Si elles nous paraissent être bien pensées, alors nous les finançons. Donc nous ne sommes absolument pas là pour imposer quoi que ce soit. Nous venons demander aux Maliens quels sont vos besoins. Donc voilà ma réponse à ce monsieur.
Alors, on voit également que l'Europe intervient dans l'humanitaire à travers justement ECHO, mais quels sont les secteurs privilégiés de l'humanitaire dans lesquels justement l'Union européenne intervient au Mali?
Oui, effectivement, nous avons ce volet humanitaire. ECHO, aujourd'hui au Mali, est le premier partenaire financier des organisations humanitaires au Mali, notamment dans ce que nous appelons la résilience. Vous savez, ce passage entre les besoins les plus urgents et une construction de réponses plus durables avec un développement de pouvoir pour la population de pouvoir développer elle-même des activités qui pourront les faire vivre à plus long terme. Avec ECHO, nous sommes également dans le secteur de la santé au niveau local et d'autres secteurs en fonction évidemment des besoins les plus urgents et de ce que proposent les organisations humanitaires qui sont présentes sur le terrain et qui disent à ECHO voilà ce que nous proposons de faire dans telle zone en fonction de l'identification des besoins qui ont été faits.
Magnifique. Alors, monsieur Koné du MAE, Mamadou Mandjou Berté, directeur Europe au ministère des Affaires étrangères du Mali. On a vu justement que ces problèmes de migration ont fait couler pas mal d'encre et de salive récemment au Mali. Avec le dernier sommet de la Valette, on a vu quand même que pour le Mali seulement 99 milliards de francs CFA concernant 9 projets ont déjà été engagés à ce niveau.
9 projets ont été engagés, mais je pense que c'est environ 1000 milliards de francs CFA, c'est pas 99 milliards. C'est environ 151,5 millions d'euros, en vérité. Et je voudrais vous signaler que nous sommes l'un des plus grands bénéficiaires de ces fonds fiduciaires en Afrique au sud du Sahara également. Oui. Donc, c'est-à-dire que nous saluons la mise en place de ces fonds qui permet quand même de lutter contre le phénomène de la migration dans ses racines les plus profondes. Parce qu'en vérité, il ne peut pas y avoir on ne peut pas freiner la migration, mais il s'agit peut-être d'en faire une migration contrôlée. Et à travers une concertation triangulaire entre les pays de départ, les pays de transit et les pays d'accueil. Voilà.
Et alors, on parle justement un rapport récent fait état justement de l'apport des migrants. Un rapport récent fait état de l'apport des migrants étant plus conséquent justement que l'aide au développement que nous apporte l'Union européenne et d'autres structures. Qu'est-ce que vous répondez à cela?
En fait, dans un état, tous les apports sont complémentaires, en vérité. il y a l'apport des Maliens qui sont à l'extérieur, il y a l'apport des Maliens qui sont à l'intérieur, et nos secteurs privés, les opérateurs économiques, il y a aussi les PTF qui apportent des ressources additionnelles supplémentaires, qui est la mobilisation des ressources extérieures. C'est l'ensemble qui fait un pays. Donc je pense que essayer de voir sous l'angle de la comparaison ne me paraît pas très juste en vérité.
D'accord, alors nous avons également Sidiki Kone, coordonnateur du CONFED. Quels sont les autres secteurs dans lesquels vous intervenez justement au niveau du CONFED? Vous avez tantôt parlé de construction des routes, mais est-ce qu'il y a d'autres projets dont on n'a pas parlé ici?
Bon, en plus de routes, comme l'a dit Madame la chef de coopération, quand on parle de gouvernance, c'est un tout. Il y a non seulement tout ce qui a trait à la gestion des finances publiques, il y a tout ce qui a trait à la justice, il y a tout ce qui a trait à la décentralisation. Ce sont des secteurs, n'est-ce pas, qui font appel à la gouvernance. Et par rapport à un volet très récent, vous avez tout ce qui est l'appui à la mise en œuvre de l'accord de paix. Donc tout ça, c'est vraiment dans un paquet qu'on appelle gouvernance. Donc voilà, c'est ce qui complète en tout cas les différents volets qui ont été énoncés par Madame la chef de coopération.
Merci. Alors Cécile Tassin-Pelzer, chef de la coopération à la délégation de l'Union européenne au Mali. La migration, qui est un des dossiers brûlants aujourd'hui de l'Europe, quand on dit que l'aide justement apportée par les migrants est plus conséquente que l'aide apportée par une structure comme l'Union européenne, par exemple.
Bon, sur cette question précise, Monsieur Berthet, je crois, a déjà répondu. Nous intervenons notamment sur non pas sur la partie positive de la migration. Bien sûr qu'il y a que les transferts des migrants, c'est quelque chose de très positif. Mais la migration, c'est pas seulement ça. Il y a aussi le côté dramatique de la migration, et c'est surtout là-dessus que l'Union européenne se mobilise. Je parle des migrants qui sont exploités par des passeurs, qui meurent dans le désert, dans le Sahara, qui meurent en mer aussi. Et j'en parle, excusez-moi, j'en parle toujours avec émotion, mais il s'agit de ça aussi, il s'agit d'éviter des drames. On n'est pas du tout, on veut pas du tout s'attaquer aux migrants réguliers qui ont du succès en Europe, et on en est très content, et ils contribuent bien sûr aussi à la prospérité européenne. Non, on parle vraiment des côtés dramatiques de la migration.
Est-ce que vous pensez que le sommet de la Valette de novembre 2015, les résolutions de ce sommet ont apporté justement des solutions idoines?
Il y a un plan d'action qui a été conjointement développé et approuvé. Quand je dis conjointement, c'est à la fois par la partie européenne et par la partie africaine. Tous les documents qui sont sortis de la Valette sont des documents conjoints. Et ce plan d'action, une partie est déjà en œuvre, et il y a aussi encore une bonne partie qui reste à mettre en œuvre, et c'est ce à quoi nous nous attelons tous les jours en développant justement des projets. Donc oui, pour répondre à votre question, je pense que la Valette a effectivement défini les solutions qui restent encore en partie à mettre en œuvre.
Merci.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Merci de rester connecté au studio Tamani. Vous suivez le grand dialogue qui parle de coopération Mali-Union européenne. On dresse l'état des lieux justement à marge de la journée de l'Europe qui sera célébrée demain. Nous recevons sur ce plateau Cécile Tassin-Pelzer, la chef de la coopération à la délégation de l'Union européenne. Mamadou Mandiou Berthet, directeur Europe au ministère des Affaires étrangères. Sidiki Kone, coordinateur CONFED, c'est la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement. Merci. Merci, monsieur, d'être donc de rester connecté avec le studio Tamani. Alors, madame, si maintenant il y a l'autre défi sécuritaire, justement, quand on regarde, il y a bien entendu ces formations avec EITM, ECAP Sahel, mais les forces armées maliennes continuent justement à subir des attaques. Le défi de l'équipement des forces armées et de l'armement, est-ce que l'Europe va s'impliquer justement dans ce volet-là?
C'est une discussion qui a lieu depuis quelques mois au niveau européen, effectivement. Nos instruments financiers, qui ont une base légale, ne permettaient pas, de financer des équipements liés à la sécurité. Et c'est quelque chose qui est en train d'être légèrement modifié. Évidemment, nous ne pourrons jamais financer sur des fonds de développement de l'équipement létal, c'est-à-dire des armes par exemple, mais nous sommes en train d'élargir la possibilité effectivement de fournir des équipements de défense, des équipements donc sécuritaires, et c'est quelque chose qui est en train de se faire, qui va avoir lieu bientôt.
Merci. Alors, Monsieur Mamadou Mandjou Berté, directeur Europe au ministère des Affaires étrangères, on parle souvent de succès des différentes coopérations entre le Mali et l'Union européenne. Alors, en un mot, est-ce qu'il y a des choses qui ne marchent pas justement dans cette coopération?
Des choses qui ne marchent pas dans cette coopération. Bon, vous savez, cette coopération vieille de plusieurs décennies est comme toute œuvre humaine, avec quelquefois des hauts et des bas. Mais l'essentiel, c'est que il y a une synergie d'action entre les deux parties vers des objectifs communs. Et d'ailleurs, l'occasion est opportune pour les deux parties par rapport à la fin de l'accord de Cotonou en 2020, de passer en rétrospective cette coopération, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on peut faire mieux ensemble encore pour les années à venir. Nous sommes d'ailleurs en cette phase d'étude et de travail commun avec les Européens. Je viens de Bruxelles le week-end passé et l'enjeu est de taille et au niveau des ACP, nous en avons longuement discuté. Il y a des pistes de réflexion à plusieurs niveaux.
Alors, nous avons vu également un tout nouveau président de la République en France, Emmanuel Macron, qui d'ailleurs dans son discours a parlé du Mali. Est-ce que vous pensez qu'à travers l'Union européenne, il y aura un renforcement des dispositifs sécuritaires, par exemple au Mali?
Nous l'espérons. Nous l'espérons. Parce qu'il va de la sécurité de l'Afrique et de la zone sud, l'Afrique au sud du Sahara, mais aussi de l'Europe. Vous savez, nous vivons dans un monde ouvert, comme les spécialistes l'appellent souvent, un monde mondialisé, où ce qui se passe à Bamako a des répercussions sur peut-être le pôle Nord. Donc nous sommes obligés d'être ensemble, de travailler ensemble pour lutter contre des phénomènes qui ne sont plus des phénomènes qui intéressent des États individuellement. C'est des phénomènes transnationaux. Le combat ne peut être fait que de façon transnationale. Et je pense que et les organisations sous-régionales, les organisations à vocation mondiale et même les États ont compris qu'il faut travailler en synergie.
Voilà. Merci. Sidi qui connaît du CONFED, alors qu'est-ce qui ne marche pas justement dans cette collaboration? On a beaucoup parlé de ce qui marche. Hein. Qu'est-ce qui ne marche pas dans cette collaboration Mali-Union européenne selon vous?
Je pense que l'ambassadeur Mamadou Mandjou Berté vient de vous expliquer. Vous savez que la coopération repose essentiellement pour le volet que nous gérons, c'est le Fonds européen de développement. L'autre volet qui est UETM et CAP Sahel ECO. Et c'est d'autres ressources qui ne sont pas gérées au niveau de la CONFED directement. Donc pour ce qui concerne le Fonds européen de développement, la base légale, c'est l'accord de Cotonou. Et comme vient de le dire le directeur Europe, des discussions sont en cours, n'est-ce pas, par les hautes spécialités. Il y a des personnalités éminentes, n'est-ce pas, qui ont été commanditées pour voir tous les côtés de la coopération, pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer encore en 2020. Donc cela va un peu voilà, de tout ce qui a trait à la programmation, au financement. Voilà. Donc c'est un dialogue qui est engagé depuis quelques mois et qui va aboutir, n'est-ce pas, à un mémorandum commun, n'est-ce pas, de coopération entre l'Union européenne et les ACP. Si c'est en cours.
D'accord, merci. Cécile Tassin-Pelzer, alors, on a beaucoup parlé de tout ce qui marchait dans la coopération Mali-Union européenne. Quels sont justement les secteurs où ça ne marche pas très bien, par exemple? Est-ce qu'il y en a?
Vous allez vous poser trois fois la même question.
Ouais. Parce qu'on a trois interlocuteurs différents, donc qui viennent du côté de l'Union européenne, non, justement. Qu'est-ce qui ne marche pas?
Alors, non, on peut pas dire qu'il y a un secteur qui ne marche pas. Je crois que Monsieur Koné a mentionné dans chaque secteur, nous avons vraiment des très forts taux d'engagement. Effectivement, nous allons faire cette année une revue à mi-parcours de notre programme, pluriannuel. Et il est clair que nous sommes déjà très bien avancés au niveau des engagements. Bien sûr, après, à l'intérieur de chaque projet, nous faisons des évaluations régulières les évaluations nous permettent parfois de tirer des leçons et nous permettent d'ailleurs de mieux préparer les projets suivants. Mais ce sont pas des problèmes structurels. Je veux dire, c'est vraiment des problèmes conjoncturels que nous veillons, nous essayons toujours de nous améliorer nous devons aussi, si vous permettez, nous adapter aussi aux grandes politiques mondiales, européennes. Et donc cette année, c'est aussi l'année des objectifs du développement durable dans le cadre des Nations Unies. Et donc dans notre coopération entre le Mali et l'Union européenne, nous avons prévu aussi de mettre à jour nos priorités, d'en tenir compte. C'est-à-dire les secteurs resteront les mêmes, mais au sein des secteurs, on va prendre davantage en compte les grandes priorités des objectifs du développement durable. Par exemple, l'égalité des sexes, la jeunesse, toute la dimension environnementale, sociétale, mais sous l'angle du développement durable. Donc c'est pas que ça ne marche pas, mais c'est qu'il faut qu'on s'adapte, qu'on se mette à jour et qu'on essaye, parce que les objectifs du développement durable, c'est aussi un objectif du Mali, donc qu'on aide mieux le Mali à remplir ses objectifs.
Est-ce que c'est la prochaine étape, ou sinon quelle devrait être la prochaine étape de la coopération Mali-Union européenne? Quelles sont les perspectives?
Alors, les perspectives, donc pour l'instant, on va faire cette revue à mi-parcours, mais pour l'instant, on est engagé dans un cycle financier jusqu'en 2020. Mais c'est vrai que dans les deux années suivantes, il faudra préparer la suite, préparer l'après 2020.
Après 2020, est-ce que l'Europe va justement être impliquée dans les prochaines échéances électorales au Mali et à l'organisation?
C'est à l'étude.
En 2018.
C'est à l'étude.
Monsieur Mamadou Mandiou Berté, alors quelles sont les perspectives justement au niveau du ministère des Affaires étrangères? Ou est-ce que vous aimeriez que l'Europe appuie un peu plus?
Bon, comme on l'a dit, nous avons tenu un séminaire en 2016 sur la coopération Mali-UE, qui a fait un diagnostic de cette coopération. Et à travers ce diagnostic, on a demandé quand même un renforcement de l'intervention de l'Union européenne dans certains secteurs, comme l'appui à la société civile, d'autres secteurs vitaux également du Mali, par rapport à la situation que nous vivons et que depuis 2012. Donc voilà un peu en gros quoi.
Merci. Alors du côté du CONFED, quelles sont les perspectives justement? Est-ce que vous aimeriez que l'Union européenne agisse plus dans un secteur?
Je pense que, comme l'a dit, tout de suite, il y a des enjeux, n'est-ce pas, qui apparaissent de plus en plus, n'est-ce pas, qui sont liés à l'atteinte des objectifs. Et il y a pour tout ce qui concerne un peu le respect du genre, n'est-ce pas, ça c'est vraiment une problématique qui est aussi nationale. Je pense que vous n'êtes pas
ça. C'est assez délicat, hein, quand on voit que le gouvernement ne respecte pas le quota de 30% déjà. Hein.
C'est vous qui le dites déjà. Donc il y a le volet du changement climatique, c'est pas, ou comme vous n'êtes pas sans savoir, c'est une problématique, mais ça. Et le Mali a bénéficié déjà d'un fonds, n'est-ce pas, d'un programme de lutte contre le changement climatique qui est en cours de la convention vient d'être signée il y a quelques semaines. Et le programme va être mis en œuvre à travers le ministère de l'Environnement. Il y a tout ce qui a trait aussi à l'emploi professionnel, n'est-ce pas, à l'emploi des jeunes. Donc ce sont des secteurs qui sont assez vitaux et pour lesquels sont en train de prendre en charge, n'est-ce pas, au niveau des différents programmes. Vous avez, madame la chef de coopération vous a parlé aussi de l'entretien routier. À ce niveau, c'est un entretien routier basé sur la problématique IMO, la haute intensité de main-d'œuvre. Ça, c'est exécuté actuellement par le ministère de l'Équipement et du Désenclavement. Mmh. Donc, voilà, c'est des volets sur lesquels nous sommes en train d'appuyer aussi bien au niveau gouvernemental, certainement, qu'au niveau de l'Union européenne, pour que ça puisse émerger afin que les objectifs des ODD puissent être atteints.
Merci. Alors, Cécile Tassin-Pelzer, M. Koné l'a dit tout à l'heure, hein, l'environnement où l'Europe a quand même investi plus de 30 milliards d'euros, justement, l'environnement et la sécurité alimentaire.
Oui. Nous sommes, traditionnellement, nous avons, depuis des décennies, comme je disais, nous avons été impliqués dans le développement rural, la sécurité alimentaire, aussi la nutrition. Nous avons notamment beaucoup travaillé dans la région de Ségou, vous savez, la zone de l'office du Niger, les périmètres irrigués, pour augmenter la capacité du Mali à produire sa propre alimentation. Mais c'est vrai que depuis quelques années, nous sommes encore plus dans une dimension environnementale et de lutte contre le changement climatique qui nous concerne tous. Et donc ça peut être notamment de la reforestation, y compris d'ailleurs dans ces mêmes zones dont j'ai parlé. Et c'est aussi, quand on parle d'agriculture, ce sont des manières de produire qui sont peut-être plus orientées vers un développement durable et pas seulement dans des perspectives à court terme, mais de voir vraiment à long terme quels seront les impacts de ces productions, par exemple.
Merci beaucoup. Ceci met donc un terme à notre émission d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à Cécile Tassin-Pelzer, chef de la coopération à la délégation de l'Union européenne au Mali. Mamadou Mandiou Berté, directeur Europe au ministère des Affaires étrangères, merci. Merci également à Sidiki Kone, coordinateur du CONFED. Je rappelle que c'est la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Arandjalo. Salim Djouara était à la mise en onde. La régie vidéo a été assurée par Gagny Kanté. Je rappelle que vous pouvez éventuellement réagir sur nos émissions à travers notre répondeur. C'est au 75 84 11 11 et au 75 84 12 12. Merci.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo de Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.